Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez après le mécénat et le patrimoine en question. Un tour de la question où les mots vont s'entrechoquer aux notes car nous parlons de rap et de l'art du rap jusqu'à 11h ce matin. C'est l'occasion pour vous de savoir davantage ce qu'écoutent vos enfants, vos petits-enfants peut-être assez régulièrement alors que le rap règne en maître sur le marché international de la musique. C'est un duo d'ailleurs qu'on va entendre, deux frères qui est en tête des ventes en France aujourd'hui, le duo PNL. Il y a un livre qui sort aux éditions Palette, livre illustré sur cet art musical, écrit par Jean-Éric Perrin qui est avec nous et qui nous racontera son histoire, ses racines, son évolution planétaire, le rap vecteur de la culture urbaine, mais tant de formes de rap également. Avec nous en studio, un artiste, auteur, compositeur, interprète, son dernier album est magnifique, Abdal Malik nous parlera aussi de son rapport au rap et de ce qu'il met dans cette définition un peu générique. C'est notre sujet, n'hésitez pas à réagir aussi. Le standard est ouvert, Julie.
Le rapport du rappeur.
Oui. Bravo.
Le standard 3921.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trou de poulette, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoule. La lune j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous new. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec je la baise. Je connais la route, connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès.
Alors, c'est un extrait de PNL, ODD, extrait de l'album Deux Frères, qui a véritablement secoué le rap français, mais avec des mots qui choquent, qui heurtent. Ce n'est pas que ça, le rap, heureusement, des mots crus. Mais c'est un duo qui truste les 12 premières places du top single en France. Bonjour Jean-Éric Perrin.
Bonjour Wendy,
c'est,
bonjour Julie.
C'est
bonjour.
Ça aussi le rap, c'est aussi PNL, c'est encore aussi de la provocation.
C'est un peu l'aboutissement d'une histoire. Alors après, on peut effectivement juger artistiquement que c'est pas au niveau de ce qu'a pu être le rap et la great black music, comme on l'appelle aux États-Unis, il y a 20 ans de ça par exemple. Mais on peut pas nier qu'effectivement aujourd'hui, ça a un poids phénoménal. C'est-à-dire que comme vous le disiez à l'instant, ça truste les 12 places, les 12 premières places, je crois, du top 50 single. Je crois que le clip de la chanson que vous venez d'entendre sur la Tour Eiffel a été vu 12 millions de fois en 48 heures.
Oui, donc ça veut dire quelque chose quand même. Et d'ailleurs, quand vous prenez le classement Une semaine ordinaire, ce que vous faites dans le livre début 2019, vous regardez les 200 premiers titres, on a combien de titres de rap, à peu près?
Un peu plus de la moitié.
Ouais.
Un peu plus de la moitié.
Et c'est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui?
C'est la musique la plus écoutée dans le monde et c'est la musique certainement la plus écoutée en France et la plus vivace, c'est-à-dire c'est celle qui a le plus échangé, qui est pas seulement écoutée, mais qui est aussi qui est consommée, qui est regardée, qui est qu'on entend partout et qui a pris effectivement la place prépondérante de l'échange autour de la musique, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus cet échange un petit peu classique qu'on avait dont on va acheter un disque, on rentre chez soi, on le met sur sa platine, on l'écoute.
C'est ça.
On l'écoute avec des amis ou en famille. Aujourd'hui, c'est vraiment imbriqué dans la vie des gens du matin au soir, parce qu'on a la musique dans les téléphones, etc. Donc c'est un poids phénoménal, effectivement.
Alors, vous avez ce rap un peu commercial, ce rap contestataire, un rap aussi plus d'apparat, avec le côté un peu m'as-tu vu, macho, sur lequel jouent d'ailleurs certains artistes, ils ne s'en cachent pas. Puis vous avez le rap, pardon, mais il y a quand même des catégories de rap, lettrés, intelligents, qui donnent à comprendre aussi, à décrypter la société, et dont vous êtes l'un des plus beaux représentants. Abdal Malik, bonjour.
Bonjour.
Auteur, compositeur, vous venez de sortir l'album Le Jeune Noir à l'épée, on va entendre un instant un extrait dans un instant avec un spectacle en tournée sur le sujet. Quand vous entendez PNL sans jugement critique, je ne vais pas vous demander de juger vos confrères, mais on n'est pas dans le même domaine de rap aujourd'hui.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière. Le rap, ce n'est pas quelque chose de monolithique, c'est une pluie de météorites. C'est, y a la diversité comme partout et je pense que, encore une fois, c'est un mouvement, c'est un style musical, c'est une manière de penser et faite de diversité. Donc il y a PNL et puis il y en a d'autres, etc. Et ça, c'est fabuleux. Je veux dire, le rap ne vient pas d'arriver, ça a une histoire, il y a quelque chose.
Oui.
Et à partir de là, il y a une possibilité de toucher, j'ai envie de dire, toutes les générations.
Il y a 40 ans d'histoire, il y a quel point commun, justement, puisque c'est une pluie de météorites, je rebondis sur cette jolie formule. Le point commun, c'est de dire quelque chose de la société un peu plus, une manière un peu plus brûlante que la chanson traditionnelle.
Non, moi je dirais le point commun, c'est la poésie. Ouais. Et après, il y a une poésie qu'on peut aimer, une poésie qu'on peut aimer moins, une poésie qu'on comprend, une poésie qu'on comprend moins.
Mais je pense que provocatrice.
Provocatrice. Aussi. Mais comme le rock l'a été en son temps, comme la perception sur le jazz au début a été en son temps également. Après, je pense que après, c'est à chacun selon sa sensibilité, selon ses goûts. On n'est pas obligé de tout aimer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit reconnaître la pertinence de ce mouvement qu'est le rap. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan Franzen qui a dit un jour dans un de ses ouvrages, il a dit « Les Baudelaire d'aujourd'hui sont les artistes de hip-hop ». Je suis plutôt d'accord avec lui.
Oui, c'est vrai qu'au départ, le rock était aussi contestataire. En fait, les grands mouvements musicaux, Jean-Éric Perrin, l'ont été.
Oui, ils l'ont toujours été au moment où ils arrivent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer ça comme des mouvements contestataires. Et on l'a d'ailleurs beaucoup vu aux États-Unis avec l'élection du président actuel, qui n'a pas suscité, comme on pouvait s'y attendre, une véritable créativité contestataire, comme on a pu l'avoir dans le rock en Angleterre à l'époque de Margaret Thatcher, par exemple. C'est quelque chose qui n'a pas existé. Mais pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, je pense qu'un autre point commun qu'il y a entre PNL et puis les tout premiers activistes de ça, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens comme PNL sont des gens qui ne sont pas sur une grosse maison de disques, qui se produisent eux-mêmes, qui refusent tous les codes établis des médias. Et au moment où ça a commencé, c'était un petit peu la même chose. C'était juste des gens qui branchaient une platine en piratant l'électricité entre deux immeubles dans le Bronx. Gardé ce côté-là, ce côté autonome.
Ouais. Mais quand même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, faire les choses de cette manière, c'est tout simplement être en phase avec son époque. J'ai envie de dire les outils de l'époque. Alors qu'à l'époque, quand on branchait, c'était tout simplement qu'on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a le choix.
Bien sûr. En l'occurrence, dans le panorama principal du rap aujourd'hui, on a cette fonction d'autonomie. Il y a un moment où effectivement les grosses maisons de disques sont mis un peu sur le truc parce que ça pouvait générer de l'argent et ça avait un intérêt pour eux. Mais on est revenu effectivement à cette autonomie, cette prise en compte de tous les éléments. C'est-à-dire on fabrique son disque chez soi, on le vend, on le promotionne par les réseaux, etc. Donc on n'a plus besoin des cadres habituels.
Pour revenir à ça et dans la continuation, c'est que dans le rap, dans l'hip-hop, il y a une histoire de l'autonomie. En France, on peut prendre des groupes comme Assassin Productions qui, dès le départ, étaient dans cette vision autonome, ou des gens comme... il y en a d'autres. Aux États-Unis, il y a la figure d'un Jay-Z qui, très tôt, cette vision de l'autonomie, etc. Ça fait aussi partie... L'autonomie fait aussi partie de la culture hip-hop.
Abdel Malik et Jean-Éric Perrin, j'aurais qu'on reçoive juste avant une petite pause. Il restera avec nous quelques minutes. Akhenaton, bonjour Akhenaton. Chanteur magnifique du groupe IAM et un des pionniers du rap en France, évidemment. Bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
Ah bonjour Akhenaton, on a la royauté qui est là. Akhenaton, comment ça va?
Alors j'ouvre ça Akhenaton, le livre de Jean-Éric Perrin, L'Art du Rap, page 70. Pourquoi écouter du rap en 2019? En 18 bonnes raisons, je vous en donne deux. La première, un, parce qu'on n'a pas le choix. Deux, parce qu'à votre avis, quel genre de musique écoutent les membres de toutes les équipes de France, de tous les sports collectifs, dans leur casque, sur le chemin des vestiaires? C'est un peu ça, Akhenaton.
Chill, le PSG n'est toujours pas champion.
À Paris comme à Marseille.
Je pense qu'il y a une raison en plus à celle-là, c'est que le rap, ce sont des musiques. Abdel Malik l'a bien expliqué tout à l'heure, en fait. C'est que le rap regroupe beaucoup, beaucoup de courants musicaux. Il y a une grosse méprise, d'ailleurs, sur le rap à l'origine en France, puisqu'il débarque vraiment à la fin des années 80 en France, alors qu'il a commencé au début des années 70 aux États-Unis et qu'à New York, de 72 à 82, c'est du disco alternatif, c'est une musique de club, c'est une musique de fête.
Ouais.
Et il est retourné aujourd'hui exactement là où il est parti. C'est-à-dire plus une musique festive qu'une musique contestataire. La parenthèse contestataire, c'est vraiment 87 à 91, on va dire. C'était vraiment
dans laquelle vous étiez,
de Public Enemy.
Dans laquelle vous étiez aussi, Akhenaton, avec IAM.
Ben nous, on est un peu précédent. Nous, on a commencé en 84. Donc, on a commencé avec du rap festif, avec IAM. Donc, c'est vraiment notre ADN à la base.
Avec Je danse le Mia notamment. Est-ce que vous l'avez, mon cher Bubu? Vous l'avez? Allez, on y va.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait Cameo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse un peu partout simple. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
Je danse le Mia, titre culte évidemment au cœur de cet ouvrage, Jean-Éric Perrin, qui veut dire
bien
beaucoup.
Bien sûr, hein, je danse le Mia, c'est un des titres, sans doute même le titre, qui a permis à ce que cette musique devienne globale en France. Ça a cassé le plafond de verre qui faisait qu'avant c'était soi-disant une musique pour les jeunes des banlieues avec des casquettes, les cartes oranges, etc. Et d'un seul coup, la France entière s'est mise, ou pas, et d'un seul coup, la France entière s'est mise à danser et à réciter par cœur ses paroles. Et en ça, effectivement, IAM a été très très important pour, comme passeur et comme enfonceur de portes qui étaient rigides jusque-là. Quoi.
Avec le sens des mots, de la poésie.
Oui, c'est quoi la musique derrière
George Benson.
Give me the night. On écoutera évidemment juste après la pause une partie de l'œuvre d'Abdel Malik et puis MC Solar et puis tout ce rap d'aujourd'hui plus festif que nous décrivait Akhenaton en puisant aux origines de l'art il y a 40 ans aux États-Unis. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Mais pas d'être muséifié sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un négus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute, s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais. Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais.
On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée.
Le jeune noir à l'épée, qui est le titre du dernier album de Abdel Malik, qui est avec nous aujourd'hui, son nouveau single.
Et c'est absolument magnifique. Merci. On parle de différentes formes de rap, Abdel Malik. On m'a parlé d'un spectacle superbe que vous, d'ailleurs, emportez de festival en festival, que vous avez donné au musée d'Orsay, où vous mêlez les arts, justement, de la peinture à la chorégraphie pour donner plus de puissance encore aux mots que vous maniez si bien dans ce jeune noir à l'épée. On est entre rap et slam, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de catégoriser un peu votre musique, Abdel Malik.
Ouais, on est, encore une fois, moi j'ai toujours dit que c'était pas le rap qui faisait le rappeur, mais le rappeur qui faisait le rap. Donc d'une certaine manière, on est dans mon style, dans qui je suis.
Qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans cet album, en l'occurrence?
En fait, j'ai fait cet album dans le cadre d'une exposition, justement au musée d'Orsay, puisqu'on a joué, l'avez dit, on a joué une semaine au musée d'Orsay, c'était vraiment beau. Qui s'appelle Le modèle noir de Géricault à Matisse. C'est la première fois qu'il y a une exposition comme ça de cette envergure sur la figure noire dans un musée de cette envergure, musée d'Orsay. Et ils sont rentrés en contact avec moi. J'ai vu cette exposition avant qu'elle se fasse et ça m'a inspiré ça. J'ai voulu faire à la fois un récit poétique, de la littérature et mon album, un livre de photos, enfin une sorte d'art complet avec le spectacle. Et j'ai mis, justement, on parlait de Baudelaire tout à l'heure, j'ai mis Baudelaire en futuring. Et voilà, c'est inspiré aussi de la philosophie de Glissant. Voilà, l'idée, en fait, c'est comment travailler à faire peuple. Et pour moi, le lien fondamental, c'est la musique. Je suis rappeur, on fait de la musique.
Quel chemin magnifique parcouru par Abdel Malik depuis Strasbourg à 14 ans, quand il crée en 1988 son groupe NAP. Et vous y étiez, Jean-Éric Perrin.
Absolument, oui, on s'était rencontrés à cette époque. Et pour rebondir sur ce que vient de raconter Abdel Malik et sur le sujet de mon livre, il y a un rapport aussi étroit avec l'art pictural, puisqu'en fait, ce livre est dans une collection pour la jeunesse et qui a comme fil conducteur un lien avec avec la peinture. Et donc c'est quelque chose qu'on a pas mal oublié, effectivement, jusqu'à récemment, puisqu'au départ c'était les arts urbains, le graphe, mais ça part du graphe, mais ça va jusqu'à aujourd'hui à la fréquentation, le taux de fréquentation du Louvre qui a été multiplié par 1,5 à cause du clip de Jay-Z et Beyoncé qui est tourné dedans. Donc voilà, le fait que les rappeurs milliardaires américains, après avoir investi dans différentes choses, investissent aujourd'hui dans l'art, font partie des grands acheteurs.
On parlait des mécénats culturels tout à l'heure.
Absolument. Donc il y a ce lien et ce livre en question, effectivement, qui explique l'histoire du rap pour un public plus jeune, qui en consomme sans forcément savoir d'où il vient. Il y a toujours, au sein de ce livre, un lien avec avec cette expression picturale, avec cette expression artistique. D'images créées par des gens.
C'est très intéressant ça Akhenaton, parce que tout à l'heure vous nous livriez un petit peu l'évolution de cet art de 40 ans et ses liens avec vraiment la culture urbaine aussi, ces liens mêlés. Voilà pourquoi l'œuvre d'Abd al-Malik est aussi très représentative, illustrative de ce courant des arts mélangés.
C'est parce que les expressions du hip-hop sont multiples. En fait, le rap est une discipline dans le hip-hop.
Oui.
Et le graffiti en fait partie. Par exemple, si on parle d'images, moi, les premières années, en 84, quand j'étais à New York, c'était encore l'époque où tous les métros étaient recouverts et plein de peintures. J'ai eu la chance de croiser Keith Haring à l'époque au Roxy, et puis vraiment les gens qui faisaient des tableaux, qui faisaient des graphes, étaient très proches des artistes qui faisaient la musique. Donc tout est mêlé, tout est imbriqué. Même j'expliquais à mes enfants la dernière fois qu'on est fasciné par l'univers des Marvel, tout simplement parce que l'univers des Marvel a énormément influencé le graphe de la fin des années 70 et des années 80 à New York, et que chaque fois que je vais me raccrocher à un film ou que je vois une BD de cet univers-là, ben ça me renvoie immédiatement à la culture hip-hop des débuts des années 80. C'est vraiment une culture très riche, et je suis content qu'aujourd'hui elle soit de plus en plus créditée à l'honneur, parce que elle a été très longtemps résumée à de l'assistanat social ou à de la distraction post-scolaire.
Vous avez tout à fait raison, et c'est même un petit peu l'histoire du rap, finalement, à la fois le genre le plus représenté, le plus écouté, on l'a vu aux États-Unis et en France, Jean-Éric Perrin, et une sous-médiatisation, comme s'il y avait peu de difficulté à passer cette musique à l'antenne, alors que...
On est toujours, finalement, d'une certaine manière à justifier notre place, regarder les disques qu'on vend, on trust les... Mais ce qui est dit là, ce que Jean-Éric a dit, ce qu'Akhenaton a dit également, c'est qu'il faut comprendre que, en fait, on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit de manière profonde, en fait. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut voir, il y a la partie visible de l'iceberg, d'une certaine manière, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose en dessous qui est vraiment enraciné, qui est profond. Et c'est en ce sens-là où cette culture est réelle, profonde, et qu'elle va continuer à durer, en réalité.
Écoutez ça. Now she said she don't like it, G. Well, listen here, bitch, get the fuck from around me. You thought you was about to get a drink on me? I put hands on your bitch like sugar free. I always let a bitch know her boundaries. Same with a nigga, I treat him like a flea. You claim to be, you aim to be in my spot. Motherfucker, you will get popped. Not knowing who you fucking with. Niggas be on bitch shit. Nigga, we be fucking quick. Nigga, we ain't talking shit. When the heat speak, niggas be on bitch shit. On est dans du rap américain, Jean-Éric Perrin. Et aux origines, quasiment, on est dans les pionniers.
On est même dans du rap californien. La quintessence du rap californien, c'est-à-dire quelque chose
Snoop
de très
Dogg.
Funky, de très dansant.
Côte-ouest.
Avec mon camarade Snoop Dogg.
Camarade, il chante toujours.
Bien sûr, c'est un des exemples justement de ces artistes qui viennent effectivement de la marge, de la pègre, on dirait, on aurait dit autrefois, et qui aujourd'hui, l'année dernière, il a eu son étoile sur Hollywood Boulevard. Aujourd'hui, il a une image aux États-Unis qui dépasse le rap. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est partout dans les médias, qui règne un petit peu sur la culture populaire.
À tout de suite pour parler de l'art du rap en question avec nos invités Akhenaton, Abd al-Malik, Jean-Éric Perrin, qui publie l'art du rap justement aux éditions Palette, livre illustré et passionnant.
Nous parlons du rap ensemble jusqu'à 11h. Le rap qui règne en maître sur le marché international de la musique, un art qui est né aux États-Unis il y a 40 ans, Mais rap, ça veut dire quoi, en fait?
Rap, c'est un vieux mot, mot américain qui veut dire parler, tchatcher, bavarder. C'est un mot qui existe depuis le 19e siècle, à peu de choses près. Quoi.
Ouais, ouais. Langage parlé, l'oralité, le rap, vous avez une définition pour vous, Abd al-Malik, en dehors de celle
Il y a celle-là, mais après, il y a des définitions qui, j'ai envie de dire, qui évoluent. Il y a une époque où... Chuck D, vous voyez mon lapsus, c'est parce que c'est des figures importantes. Chuck D disait que le rap, c'est le CNN du ghetto, par exemple. Ça évolue, en fait. Donc chacun a sa formule.
Le rap sur les 20 plus importantes ventes d'albums en France, ceux qui se classent derrière Johnny, on trouve Maître Gims, Aurel San ou Soprano.
Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci.
Soprano, je suis en feu. Pourquoi on écoute du rap en 2019, Jean-Éric Perrin? Parce que le rap a 40 ans et que c'est un âge respectable, écrivez-vous. Et parce que l'électro, parfois, c'est sympa, surtout pour danser, mais que l'on ne peut pas chanter de refrain vu qu'il n'y a pas de parole. Et Soprano, oui. on fait les deux. Hein. Soprano, par exemple, c'est un artiste assez représentatif d'un rap plus festif dont parlait Akhenaton.
D'un rap joyeux qui n'est pas dénué non plus de sens, bien sûr. Ouais. Mais effectivement, d'un rap joyeux, d'un rap communicatif et d'un rap fédérateur qui touche un public plus jeune peut-être, même si le public grandit toujours avec les artistes qu'il a écoutés plus jeunes, mais voilà, c'est quelqu'un qui effectivement qui va chercher et qui a commencé loin. On parlait tout à l'heure d'Abd al-Malik qui a commencé à 14 ans à Canapé. Moi, j'ai connu les Psychiatres de la Rime, donc était le groupe de Soprano au début. C'est pareil, ils avaient 14-15 ans. Quoi.
Vous avez commencé à quel âge, vous, Akhenaton, avec vos copains d'IAM?
Moi, c'est 16 ans et demi, c'était en 84 en fait, les premiers morceaux,
c'est
donc ça remonte à longtemps, mais c'est vrai qu'en plus il y a une chose intéressante quand on écoutait un morceau de Soprano, il a intégré des éléments de la musique populaire et commerciale africaine aussi, congolaise notamment, et qu'en fait le rap a cette force là aussi d'aller chercher dans les racines, d'aller chercher dans la culture en général. Nous on a fait ça dès le début, aller chercher les inspirations dans les paroles dans les autres civilisations. Et musicalement, le premier morceau qu'on a fait en tant qu'IAM, on a rappé sur un rythme de Mohamed Abdel Wahab, qui était un artiste égyptien. Donc pour coller au concept égyptien du nom du groupe, on a rappé sur de la musique classique arabe en fait. Et la force du rap en fait, to rap en anglais, ça veut dire parler en scandant. Donc il y a l'idée de la parole et il y a l'idée du rythme en même temps. Et c'est pour ça que, par contre, quand ça chante, ça reste de la musique apparentée à du rap, mais c'est de la chanson. Et pour moi, pour que ce soit du rap, il faut que ce soit scandé.
C'est très fort et plein d'images ce que vous dites, et cela fera réagir juste après la pause Abd al-Malik, parce que mêler aussi à cet art les traditions de la chanson française. Je pense à Brel, je pense à Juliette Gréco, que vous avez fait chanter dans un album magnifique, Abd al-Malik. C'est aussi la force des mots et du langage scandé, voire slamé. À tout de suite sur Europe 1.
Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures, celles qu'aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi c'est le top, j'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi calé en soirée, je lui disais « Rentre à la baraque, va faire à bouffer !» Ensuite j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer, celles qui comme moi avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient moi. Du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi, mais c'était pas moi le chien. Mais les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres.
C'était en 2006, les autres. interprétation brillante, Abd al-Malik reprenant, vous inspirant de ces gens-là, de Brel, ouais. Dans une continuité magnifique qu'autorise le rap justement dans cette poésie, Abd al-Malik.
Ouais, le rap, on l'a dit tout à l'heure, le rap en fait, il y a aussi cette idée que c'est issu aussi de la culture du simple. Mm. C'est-à-dire, il y a une machine où finalement on va chercher des bouts de musique partout dans le monde et on les rend hip-hop dans toutes les cultures. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, il y a la machine, mais nous-mêmes, on est devenus un peu des outils de la culture monde, d'une certaine manière. Pouvoir se nourrir de tous les styles musicaux, pouvoir se nourrir de tous les artistes, d'une certaine manière, et rendre ça hip-hop. Et c'est vrai qu'il y a le fait de rapper une manière, donc le flow particulier, mais c'est vrai que quand on chante ou quand on slam ou quand ça s'inscrit néanmoins dans la culture hip-hop, mm-hmm. parce qu'il y a la discipline et la culture. La discipline fait partie d'une culture particulière et cette culture, c'est la culture hip-hop.
Avec différentes racines. Tout à l'heure, Akhenaton en parlait. NAP, quel était le sens du mot, des trois lettres de ce groupe, de votre groupe ?
De mon groupe, ça voulait dire New African Poet. Ouais. Et parce qu'on voulait s'inscrire dans la filiation des Last Poets. On voulait dire qu'on était les nouveaux.
Alors.
Les nouveaux Last Poets, d'une certaine manière.
Alors, les Last Poets, il faut que vous nous expliquiez, parce que vous en parlez dans ce livre, Jean-Éric
Perrin,
d'art du rap.
On peut dire que c'est les précurseurs. Alors après, c'est comme dans toutes les histoires culturelles, il y en a toujours un qui dit oui, mais celui qui a commencé, c'est pas lui, c'est l'autre, etc. Mais globalement, on peut dire que c'est un petit peu les précurseurs, c'est un peu les inventeurs de ça avant ça. C'est-à-dire qu'il y a une tradition orale aux États-Unis et ce qu'on appelle le spoken word, qui est. En fait, on enregistre des disques et on dit diffuse comme ça des disques qui ne sont pas chantés mais qui sont scandés, comme le disait Akhenaton à l'instant. Et donc les Last Poets c'était un groupe qui est lié aussi à l'activisme qui arrive juste après les revendications pour les droits civiques aux États-Unis. Donc c'est des gens qui ont vécu ça dans les années 65 à peu près et qui ont transmis ce message donc de la culture africaine-américaine aux États-Unis à cette époque-là et qui de fait sont devenus un petit peu les inspirateurs et les initiateurs de ce qu'on a appelé par la suite le rap.
Entre et ce
rap
message français, est arrivé jusqu'à nous et oui. Nous voilà aujourd'hui.
Et voilà. Avec Akhenaton qui vous a fait vibrer, évidemment, Abd al-Malik.
Encore une fois, Akhenaton, IAM, NTM, Assassin, les Little, enfin, il y a toute une comme ça galaxie de groupes premiers qui sont nos héros, qui sont les qui ont amené, qui ont fait en sorte justement que le rap puisse se diversifier de cette manière. Ils ont amené de l'intelligence, ils ont amené une ouverture grande réellement. Voilà. Et pour moi, voilà, Akhenaton fait partie de ces grandes figures.
Ce message qui traverse les ondes de Paris à Marseille, Akhenaton pour vous, qui avait eu quelle figure emblématique en inspiration, Akhenaton? Avec IAM.
Moi, j'en ai une particulièrement qui est à mon âge. Hein, et en fait, quand je vivais aux États-Unis en 86, j'allais dans une boîte de nuit qui s'appelait le Latin Quarter Club. Et tous les mardis soirs, il y avait des fêtes où il y avait tous les artistes new-yorkais qui venaient se réunir et faire la fête. Et puis, dans le rap de 1986, avec un flow très similaire chez les artistes, il y a un disque qui a été joué un soir. Et la prod était faite par Marley Marl et le rappeur c'était Rakim. Yeah. Et Rakim, qui était issu d'une famille de jazzmen, comme le disait Miles Davis, a introduit le silence, qui était aussi important que les notes dans la musique. Et il a rappé d'une manière complètement différente. Pour moi, c'est la claque de ma vie. Quand j'ai entendu Rakim rapper, ça a été un univers qui s'est ouvert, en fait.
Alors, j'ai pas de Rakim pour vous, Akhenaton, mais je sais pas si à New York City, creuset du rap, vous écoutiez aussi dans les années 80 ce titre-là, mais on va en parler. Run DMC, Walk This Way. Rock This Way, on est entre rap et rock, Jean-Éric Perrin.
On est au départ sur un titre de rock d'un groupe qui s'appelle Aerosmith. Et à l'instant, tout à l'heure, je parlais de la rupture du plafond de verre, du crossover, comme on appelle ça en anglais, qu'avait fait IAM avec le Mia. Oui. Et aux États-Unis, ça s'est produit avec cette chanson, parce que les États-Unis sont une nation qui est beaucoup plus rock que nous en France, où on est plus marqué par la chanson. Et Walk This Way est déjà un tube par Aerosmith. Et quand Run DMC, donc un des gros pionniers du rap new-yorkais, reprend cette chanson et sur sur le clip invite Aerosmith à les rejoindre pour voilà, pour partager un petit peu de culture que, et à l'époque on présentait un peu de façon antagoniste et, ouais. Et c'était faux en fait, puisque les vrais inspirateurs, les vrais créateurs, les vrais musiciens, je pense à des gens comme DJ Premier, des gens comme ça, c'est des gens qui avaient une énorme culture rock aussi. On ne pouvait pas dire oui, non, mais nous, les rappeurs, on n'écoute pas de rock. Je me souviens, c'était notre camarade Joey Starr qui disait ça au début, et puis après, il s'est produit sur la scène de l'Olympia avec un groupe de métal. Donc voilà, c'était juste des attitudes, des prises de position pour marquer son territoire un petit peu.
Et puis même dans les coulisses, les fondateurs du label référent de rap qui est Def Jam, ça a été fondé par Rick Rubin, Rick Rubin et Russell Simmons. Donc déjà, cette association, elle était déjà dès le départ. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivaient ensemble,
c'est
en
ça.
Réalité. Mmh. Et ils ont donné à voir au peuple, j'ai envie de dire, ce lien qui existait déjà.
Faire peuple, c'est une expression qui a beaucoup ému nos auditeurs qui nous le disent sur le hashtag Europe 1. Est-ce qu'il existe, avant une petite pause, une réelle différence entre le rap américain et le rap français, Jean-Éric Perrin ? Aux origines, j'allais dire.
Non, je pense que c'est une filière. Il y a un vrai cousinage. Ce rapport entre les deux pays a existé nulle part au monde. Aujourd'hui, il y a du rap partout. Il y a du rap dans tous les pays du monde quasiment. Mais c'est vrai que le lien comme ça très fort qui a existé très tôt entre la France et les États-Unis n'a existé nulle part ailleurs.
Merci. On fait une petite pause avant de retrouver un auditeur. Tenez, Jean-Yves, qui veut aussi nous parler de son rapport au rap et de l'origine du rap. Il est avec nous depuis Contrexéville, là au 3921, Akhenaton, Abdelmalik, Jean-Éric Perrin, pour faire le tour de l'art du rap en question jusqu'à 11h ce matin sur Europe 1. Europe 1.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
MC Solar. Caroline, pour parler du rap et de l'art du rap en question à l'occasion de la sortie de ce livre de Jean-Éric Perrin qui est passionnant aux éditions Palette. On en parle avec Abdelmalik, poète, artiste, auteur, avec ce jeune noir à l'épée, spectacle magnifique qu'il diffuse, qu'il montre de festival en festival avant le théâtre de Paris en janvier prochain.
On va jouer
prochain.
Au théâtre de la ville du 18-19-20 au théâtre de la ville. Et puis c'est un livre-album, c'est-à-dire c'est à la fois... un album, Le Jeune Noir à l'épée, mais c'est aussi un livre, un récit poétique, un beau livre d'art, de photos, etc.
Ouais, voilà. Bah voilà aussi tous ces arts mêlés dont on parlait, Jean-Éric Perrin, on entendait MC Solar, Akhenaton est encore en ligne pour le groupe Ayan. Ce sont des contemporains.
C'est vraiment ce qu'on appelle la première génération. C'est la première génération qui émerge et qui prend toute la place qu'elle mérite de prendre dans les années 90 à peu près.
Avec déjà des styles très différents. Voilà.
Oui, absolument, avec déjà des styles très différents, effectivement, à l'époque, entre NTM, IAM, MC Solar, Oxmo Puccino, les Little, dont tu parlais tout à l'heure, les X, enfin voilà, les sages poètes de la rue, on a plein d'entités artistiques comme ça qui défrichent et qui ont toutes leur propre chemin.
Julie,
en écoutant MC Solar, là, je viens de comprendre un truc.
Vite.
Il dit as de trèfle qui est pique de ton cœur. Il manque carreau, mais carreau, c'est Caroline.
C'est ça. Bien sûr.
J'avais pas compris.
Voilà. C'est pas grave, vous avez 35 ans de retard.
mais c'est ça, les grands
c'est
textes.
C'est génial.
Les grands textes, on découvre toujours quelque chose au fur et à mesure des années.
Ah, je suis content. Ça fait
du bien. Ça fait du bien. On fait une émission aussi pour vous. Et pour Jean-Yves, au 3921, qui veut apporter sa pierre à l'édifice de cette réflexion sur l'histoire du rap. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous qui écoutez du rap depuis combien de temps alors ?
Depuis les années 90, hein, j'écoute du rap, je suis dans le mouvement Paris Nord.
Ah d'accord, très bien.
Voilà.
Donc Akhenaton, MC Solar, Abdelmalik, voilà, ces artistes-là vous parlent.
Ils
plus
ont
que
un peu
tout.
Mon âge. C'est ça.
C'est la même génération. Vous vouliez apporter une précision puisqu'on parlait des racines du rap.
Voilà, tout à fait, parce que vous disiez que le rap vient de l'Amérique, quoi. Peut-être le nom RAP, ça vient de l'Amérique, mais le son elle-même, parce que ça a été commercialisé en Amérique, d'accord. Mais cette version-là, ça vient des Antilles, ouais, les Caraïbes. Alors qui veut dire que dans chaque île, il y avait une façon de raconter des histoires pour permettre à la famille des défunts de reprendre le moral, de rigoler. Oui. Alors qui veut dire, il y avait des contes qui venaient et puis ils racontaient des histoires, ouais. Rapide en parlant, et par la suite, ça a remonté le moral. Et aux Antilles, c'était comme ça, et en Jamaïque, c'était une version plus rapide, quoi, vous voyez. Et les conteurs racontaient. Et par la suite, c'est parti en Amérique, et les Américains, ils l'ont commercialisé en tant que rap, quoi. Oui, mais ça vient de la Caraïbe.
C'est intéressant, vous rejoignez la version historique de Jean-Éric Perrin.
Sur certains points, c'est vrai que le premier DJ important qui a inventé les block parties aux États-Unis à New York venait de Jamaïque. Mais tout ça remonte encore plus loin. Aux États-Unis, il y avait une tradition aussi qui s'appelle les Dozens. Alors là, qui remonte aux années 1920-1930 et qui était une espèce d'échange comme ça de joutes verbales qu'on avait à un moment donné adapté en France avec les tamers, ta mère, devant le prisu et tout, ce genre de truc. Donc ça aussi, ça a été constitutif. Tout s'est agrégé pour constituer ce qu'on a fini par appeler le rap. Mais effectivement, il y a plein de racines qui vont aux Caraïbes, qui vont en Afrique, partout.
Ouais, c'est des courants, mais je pense que c'est vraiment le lien à l'oralité, en fait. Et c'est vrai que dans chaque culture, il y a un lien à l'oralité fort. Et c'est en ce sens-là où le rap, à la fois ce qui a été dit là est vrai, mais c'est vrai ailleurs aussi. C'est vrai pour les griots en Afrique, c'est vrai, on peut parler pour les troubadours ici. Absolument. Il y a toujours ce lien à l'oralité, mais c'est vrai que le rap s'inscrit dans une tradition ancestrale.
Oui, le rap commercialisé aux États-Unis, en effet, un art qui a 40 ans aujourd'hui, du rap qui commence aussi à Kenaton à rentrer dans les cérémonies professionnelles, officielles, aux Victoires de la musique. On a le sentiment qu'il y a eu un temps long de reconnaissance. Et là, étant donné que le rap est la musique les plus écoutées en France, on se dit il faut bien une catégorie. Par exemple, je te donne un exemple.
Oui, moi je le mettrais hors catégorie, je le mettrais dans la musique française. Créer une catégorie musique urbaine ou culture urbaine, ça oppose la culture de la ville face à la culture des champs. Ça m'évoque très peu de choses, moi, ces histoires de culture urbaine. Donc ça reste de la musique, mais par contre je voudrais revenir sur ce que dit Jean-Yves, et c'est très intéressant parce que en fait ce que tous les invités ont dit, c'est que les racines du rap sont multiples. Oui. Et effectivement le dénominateur commun entre les pionniers du rap, que ce soit Bambata, Grandmaster Flash et DJ Cooler à New York, donc les trois endroits différents dans le Bronx, tous les trois ont des origines jamaïcaines. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui a traversé l'océan avec l'esclavage, qui est arrivé aux États-Unis. Donc il y a les Dozens, il y a aussi le Country Preaching qu'on retrouve dans un morceau comme Public Enemy Number One de James Brown à la fin des années 60. Il y a des racines multiples, et c'est le rapport à l'oralité, à ce qui doit être dit, qui ne peut pas être dit en chanson, qui a plus de poids quand c'est scandé. Et voilà, c'est important de le préciser parce que des fois après l'histoire doit être fixée pour pas qu'elle se perde. Mais c'est une histoire magnifique, l'histoire du hip-hop et l'histoire du rap, et sont des histoires extraordinaires.
Merci à Kenaton, Dayam, à Aurel San.
Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur. Le futur changera pas grand chose. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Notre avenir, c'est la minute d'après. Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer sur un banc. Rien d'autre à faire. Voix de la bière. Les gazières qui n'ont pas de fer, les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches, on est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer. Encore une boucle. étouffé, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la merde, un instant est tombée.
Demain, c'est loin. I am Akhenaton est avec nous en ligne. Titre très fort, écrit il y a plus de 30 ans, et dont les paroles sont toujours d'une intense actualité. Jean-Éric Perrin, c'est pour ça aussi que ce groupe I am s'est inscrit dans l'ADN du rap et de la chanson française.
Ben oui, puis c'est un petit peu l'oriflamme. C'est-à-dire que c'est effectivement cette chanson-là et beaucoup d'autres sont l'exemple comme ça d'un rap signifiant, d'un rap combatif, d'un rap qui dit les choses et qui effectivement est très éloigné du rap festif, du rap dansant, du rap souvent emmêlé dans ces clichés qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
Clichés que vous avez voulu souvent dépasser Akhenaton avec I am, parce qu'on continue à dire, et c'est vrai que certains rappeurs jouent là-dessus, que le rap est misogyne, est violent, voire pousse aussi à la délinquance, et c'est exactement tout le message contraire que vous n'avez cessé de porter avec votre groupe.
Ah oui, parce qu'on a vécu avec autour de nous des exemples de personnes qui vivaient des choses complètement différentes, mais les clichés, après, c'est de la rhétorique. Hein. On peut tourner et démonter n'importe quoi. Par exemple, je vais prendre un exemple, l'histoire des chaînes en or que les rappeurs portent et qui a tant fait rigoler la presse, notamment en France. Et les journalistes trouvent moins rigolo quand c'est des peuplades en Afrique qui essaient de faire le collier de fleurs le plus beau possible pour charmer les filles. Et c'est attrayant quand on voit des reportages sur Arte où ce sont des peuplades perdues, et ça devient moins marrant quand ce sont des jeunes noirs dans des quartiers en France ou aux États-Unis. Et ce malentendu, j'ai parlé de malentendu tout à l'heure, mais c'est encore un malentendu, persiste et dure. Il faut savoir qu'il y a des choses qui paraissent être des clichés aux yeux des gens, aux yeux de monsieur tout le monde, qui n'en sont pas quand on comprend l'origine et la filiation de cette culture, et quand on remonte aux origines de cette culture. Bah voilà, il y a des choses qui sont logiques. Ouais. Après, effectivement, la société société de consommation influence, mais elle influence absolument tout. Hein. C'est difficile d'y échapper aujourd'hui.
C'était pourquoi c'était bon de vous avoir avec nous.
Après, encore une fois, l'art, de manière générale, c'est un miroir d'humanité. C'est-à-dire, finalement, les travers qu'on peut voir dans le rap, enfin, si on considère que ça c'est des travers, c'est en même temps c'est en correspondance avec le mouvement de la société. Les artistes de rap ne vivent pas à côté de la société, ils sont en plein milieu et participent à ce mouvement qui des fois embrasse l'irrationnel, embrasse le sexisme, embrasse etc., mais ça embrasse aussi l'intelligence, l'ouverture, le partage, etc. Donc il faut pas ce qu'on reproche au rap, par exemple, on va pas le reprocher à un mouvement plus installé culturellement en France, par exemple le rock, etc. Donc voilà, il faut être dans la justesse, et j'ai l'impression que voilà, si on considère les rappeurs comme des artistes, tout d'un coup on voit les choses de manière plus juste, plus
la
claire.
Justesse et la pédagogie, toujours pour lutter contre l'ignorance et contre les clichés. Vous étiez là pour nous le prouver une fois de plus, Akhenaton. Merci de votre présence au téléphone pendant cette émission pour le groupe I am Abd al-Malik, le jeune noir à l'épée. L'album aussi est à retrouver avant cette grande tournée en France à partir de la rentrée. Jean-Éric Perrin, qui nous donnait l'occasion de cette émission, n'aurait pu faire bien davantage, mais vous découvrirez tout dans ce livre, L'art du rap, Jean-Éric Perrin, aux éditions Palette. Merci.
Et aussi, pour aller plus loin, si on veut, j'ai aussi sorti récemment un roman qui s'appelle L'émeute blanche, qui raconte l'histoire d'un rappeur qui se trouve confronté aux suprémacistes blancs aux États-Unis. C'est chez Sirius Publishing.
Bah parfait,
et c'est la version
globale,
un peu adulte de ce livre pour enfants.
Merci, à demain, ma chère Julie. Merci, les auditeurs.
À demain.
Si fidèle, Wendy Bouchard.